C'est des rigolos de kermesse.
Les mecs, ils en ont la foudre de leurs citoyens.
Tout ça fait qu'en ce moment, il y a une espèce de mal-être ambiant.
Moi, je rêve, oui, que ça se sabote. Ça, c'est... J'en rêve.
Ça grésille dans le poteau. Histoire de la lutte contre la THT Cotentin mène. Un objet radiophonique en 5 épisodes, réalisé à partir d'entretiens enregistrés de 2013 à 2016.
L'arrivée des Verts et des socialistes au pouvoir, ça correspond à ça aussi.
Merci les Verts.
Et les aberrations de notre État, du système capitaliste.
Ah, les pelles à Vinci, les pelles à Eiffage et les pelles à Bouygues, c'est fait beaucoup de la merde. Quoi.
Mais on les aura, vous n'avez pas vous inquiéter, on les aura. On les aura d'une manière ou d'une autre.
Épisode 2. Des clés à molette et des grues. Chronique de la construction de la ligne.
Deuxième partie.
Au niveau du conseil, parce que le conseil municipal, on avait décidé qu'on ferait appliquer l'arrêté qu'on avait pris. Alors l'arrêté, il est de 2008, qui s'inspirait des lois qui existent en France, hein, qui disait que la ligne ne pouvait s'installer qu'à 500 mètres des maisons et 300 mètres des bâtiments d'élevage. Parce qu'on n'a pas le droit de prendre un arrêté dans une commune pour interdire. Donc, on avait pris un arrêté pour limiter. Et il s'inspirait aussi de ce qui se passe dans certains pays à l'étranger par rapport aux lignes très, très haute tension. Et donc, cet arrêté-là, il avait été pris par les 45 communes. Le chef Rennes avait été le premier à le prendre. Et contrairement aux autres, il n'a jamais été attaqué parce que les délais pour l'attaquer avaient été dépassés. La préfecture n'avait pas vu passer, il avait été tamponné. Ils ont deux mois pour faire un recours. Il n'était pas, donc il n'a jamais été cassé. Et donc, il était opposable. Légalement, d'ailleurs, je l'avais, même avant le chantier, je l'avais déposé dans la gendarmerie, tout ça. Normalement, c'était à la gendarmerie de nous aider à faire valoir cet arrêté-là. Tant qu'il n'était pas cassé, il était opposable. Et donc, j'avais demandé aux élus de se présenter le jour où le chantier commencerait, de se présenter avec moi donc sur le, pour empêcher, faire appliquer l'arrêté. Dans la semaine avant, il y avait Hollande qui venait dans le Calvados et la préfecture, enfin pas la préfecture, mais les renseignements généraux m'avaient proposé avec des associations, d'autres élus, de rencontrer un représentant de Hollande pour parler du problème de la THT. Et dans un premier temps, ça avait été accepté. Et on était une délégation de 5 ou 6 à y aller. Et puis, la veille, donc c'était le 5 juin, ça, il y a la préfecture qui dit non, pas de rencontre possible avec, avec l'Elysée, enfin, les services et tout ça. La préfecture avait empêché cette rencontre-là. Et à 16h, le 5 juin, la pelleteuse arrivait donc au premier chantier du chef Rennes. Et donc j'avais donné rendez-vous le lendemain matin pour arrêter le chantier et faire valoir l'arrêté. Et donc j'avais appelé les élus, enfin, et puis bon, il y avait des riverains, il y avait des militants qui étaient là. On a bloqué deux camions qui venaient au chantier. Et là, bon, est arrivé, je ne me souviens plus, 6 ou 7 quarts de garde mobile. Donc le commandant est venu me voir et il me dit, bon, si vous laissez pas le passage, on vous arrête. Et donc après, donc je dis non, on bouge pas. Bon, après il est revenu une deuxième fois et il dit, bon, ben là je vous arrête si vous dégagez pas. Bon, ben, alors on a laissé le passage. Et puis après, on s'est installés tous devant le chantier. Et donc le temps a passé, parce que là, il était au moins 8h du matin quand il voulait m'arrêter et que je bloquais le chantier. Et ensuite, il était 11h quand tout d'un coup, alors que tout le monde, enfin beaucoup de riverains qui arrivaient et tout ça, et que j'étais assis sur le fossé en train de répondre à une question, je crois qu'il y avait FR3 qui était là. Il est arrivé avec des molosses, là, et puis, bon, je vous mets en garde à vue. Et puis, bon, il y en a d'autres qui se sont fait arrêter, hein, parce qu'il y en a deux ou trois qui ont été emmenés à Coutances. Donc là, j'ai compris que, en fait, tout ça, c'était prémédité. Puisqu'il y avait des gens en civil qui étaient à côté des gardes mobiles, qui étaient là, qui faisaient des photos, enfin, etc. Et puis, en fait, c'est ces gens-là qui faisaient partie de la brigade criminelle d'Avranches, qui m'ont interrogé, qui m'ont suivi de 8h du matin jusqu'à 11h, tous mes faits et gestes, enfin, etc. Ils me suivaient, photographiaient tout le temps, machin, tout ça. Et c'est eux qui m'ont interrogé. Ils étaient venus dès le matin pour m'arrêter, puis en arrêter quelques-uns d'autres et tout ça, pour refroidir, je pense, les ardeurs voilà, de tout le monde au vu du chantier. Ce qui a déclenché après un mouvement d'humeur de mon conseil municipal, qui, par solidarité, ne voulait plus tenir les élections législatives, qui avaient lieu le dimanche d'après. Et donc, moi, dans un souci un peu de démocratie, donc j'avais signalé à la préfecture qu'on ne tiendrait pas le bureau de vote, mais qu'on laissait à disposition le bureau de vote pour que l'élection puisse se faire quand même. Et là, j'avais eu l'accord écrit du sous-préfet qui me disait qu'il n'y avait pas de problème, qui me remerciait de le prévenir, et qu'il mettait à disposition de la commune 3 administratifs qui descendaient de Saint-Lô pour tenir les bureaux de vote, charge à nous de mettre en place tout, enfin, etc. Ce qu'on a fait. Et je me souviens, le samedi midi, FR3 est venu filmer le bureau de vote, tout installé, enfin tout ça, prêt à accueillir. Et le samedi soir, on avait les flics qui débarquaient chez tous les élus de la commune, avec un ordre de réquisition, pour tenir le bureau de vote. Là, bon, bah, j'ai dit, on arrête de jouer au chat à la souris. J'ai convoqué une réunion extraordinaire, et là, j'ai dit que je ne pouvais pas continuer à jouer comme ça. Que là, je démissionnais, et tout le conseil a suivi. Comme je le disais à l'époque, moi, même si j'ai été 12 heures en garde à vue, ma commune, elle a été pendant 6 mois. Et ce qui a fait, je pense, ça a impressionné les gens ici. Les gens qui n'étaient pas forcément dans la lutte et tout ça, mais qui en avaient marre de se faire contrôler sans arrêt pour rentrer chez eux, ou dès qu'ils avaient des invités chez eux, de voir un hélicoptère qui venait voir ce qui se passait, enfin, etc. Cette pression-là, mais c'est pareil, ça c'est un scénario qui est monté pour faire en sorte que l'appui que je pouvais avoir au niveau communal se renverse.
Anciens, ils se croyaient pendant la guerre. Hein. Ça, c'est, ils avaient vraiment l'impression. Oui, c'était une CCI, ils ont occupé, hein, c'est clair. Hein.
Ah ben, Chéfren, hein. Dans le bas du Chéfren.
Et puis ça a duré longtemps, c'était pas une journée ou deux, quoi. Ça a été plus de 6 mois.
Mm-hmm. Le truc le plus choquant qu'on a eu quand même, c'est à. C'est pas ici, c'est à Avranches. On s'est fait filer à Avranches. Alors, ils nous ont repérés à la Biocoop. On était en famille, hein. on venait d'acheter des vélos pour les enfants et de grands. Et j'avais remarqué le staffette de police là qui était en embuscade. Là. Et puis bon, nous ont suivi et puis ils ont été nous coincer quelques roues plus loin, là où il y avait moins de monde.
Qu'est-ce qu'ils t'ont demandé, tes papiers,
s'il te plaît ? Papiers d'Agnès. Et puis devant les enfants, si tu veux, on se fait coincer devant les enfants. Ça, j'ai trouvé ça choquant, ça. C'était parce que c'était vraiment l'intimidation, parce que autant la garde à vue... Ça faisait partie du jeu. Enfin, pour moi, les enfants ont bien apprécié, mais pour moi, c'était qu'on aille faire des actions comme ça.
Parce que les enfants, ils ont quand même expliqué les choses.
Oui, mais ils nous ont été pendant un bout de temps, quand ils voyaient un gendarme, c'était...
Ils avaient peur.
Sale flic, quoi.
Bah oui. Oh, mais moi, je pense qu'ils écoutaient directement sur le téléphone.
Hein, ah oui. Si, c'était sur le téléphone.
Ouais. C'était direct. Hein.
Qu'est-ce qu'ils nous avaient appris? Que même le portable bétail peuvent écouter. Pour pas qu'il t'écoute, faut enlever la pile ou la carte SIM. Et quand tu prenais le fixe, t'avais une résonance. Là, avec Damien, quand on se téléphonait, on disait toujours « Bonjour au con qui écoute ». Ah, les emmerdés quand même. Oh, le plus beau cadeau qu'on leur a fait, c'est des flics qu'on a enfouis dans le bas de la pièce. Ah, t'es pas au courant de ça ? Oh, pendant le gros bordel. Ouais. Comme il passait à une place qu'il avait pas le droit. Il avait passé dans le bord, là. Tu sais que ça fait l'angle, là. Il faisait un haricot, là. Mais là, c'est plus la même parcelle. Elle n'est pas en servitude, celle-là. Le vendredi, on les avait bloqués avec des militants pour pas qu'ils ressortent. Ouais. Et les flics qui s'amènent, qu'est-ce qu'il y a, monsieur Arseneur ? Je dis, je reprends mon terrain. RTE s'amène après, il dit aux flics, bon, on va en bas. Les flics disent, vous vous débrouillez, c'est pas nous. Et le dimanche, on avait fait une digue de terre. Mais là, ça chauffe. Là. On croyait qu'il allait prendre des grenades sur la gueule. Là.
Non,
et
puis il avait les...
Le taser et tout.
Ouais,
hein.
Tout le bordel. Là.
Tu sais, on avait fait une digue de terre.
Là, qu'on voit des comme, balles, là, au fin des...
Ouais,
voilà,
ouais
des flashballs.
Voilà.
Digue de terre. Et puis j'ai un robinet dans la qui fait l'angle, que c'était pas encaissé, j'avais noyé la cave. Et c'est Saint-Laube, il a le vigile, il l'appelait tout le temps. Putain, on a attendu longtemps, hein. Au moins trois quarts d'heure pour qu'il vienne. Ouais. À la tombée de la nuit, oh, j'ai dit ça y est, c'est bon, ils viennent. Il est là. Mais il est arrivé là-bas dans le bois, ils ont sauté tous dans la bagnole. Ouais, on se faisait lyncher. Ouais. Oh, mais t'es fou, les flics. J'ai dit, mais attendez, je suis chez moi, là. J'ai vu que ça partait mal, j'ai dit, bon, on s'en va, nous. Mais on avait noyé la cave avec leur grosse bagnole. Tout content comme des gros.
Ils voulaient aller au pilon d'en bas.
Ils ont voulu aller au pilon d'en bas. Ils ont resté dans le trou que c'était noyé. Il restait une heure de temps pour se retirer. Habillé. Et moi j'étais parti à pied, j'étais caché derrière le talus, là, vous voyez pas. Mais je riais, Je dis putain de gros con, comment je vous ai arrangé la gueule. Oh, mais t'es pas de poil. Et c'était ici, encore pour les faire chier encore un peu plus. Il dit ben, allez voir monsieur l'arçonneur, il va sûrement vous aider.
Il y a un tracteur.
Ah, il a dû se rappeler de celle-là. Pour preuve que c'est quand même con un flic. Hein. Il sort en bagnole, il y a haute flotte comme ça, faut qu'il
passe. Oui, faut qu'il aille.
C'est qu'un flic de Paris, c'est qu'un flic de Paris. C'est la flicaille des gens honnêtes, avec un œil dans nos assiettes. Tu fais le beau aux sorties d'usine, l'air agrippant de Steve McQueen. Les pigeons font sur nos toitures, que tu fais toi sur nos voitures, autant qu'ils visent les monuments, que toi t'évites les gouvernants. T'es qu'un flic de Paris, t'es qu'un flic de Paris. T'as de l'avancement qui se croise les bras dans les idées, lorsque t'en as, tu couches à droite pour le turbin, tu votes à gauche pour te faire du bien. Comme une peau d'âne, crée pas tout, t'es de la pèlerine et rien en dessous, de la baudruche assermentée, gonflée au vent de la société. Bref, un flic de Paris. Bref, un flic de Paris.
À l'époque, on était cerné par les flics. J'habitais Bercy et je pars le soir d'ici. Une voiture en plein phare. Qu'est-ce que tu fais? Tu te mets en plein phare. Et puis vraiment, je voyais plus rien. Donc je m'arrête. La voiture se met en travers. Puis d'un coup, j'ai refare. D'où vous venez? Baissez votre vitre, non. Gendarme original, moi qui me propose d'être gendarme. Et le mec, avec une suffisance et une arrogance, il ouvre sa veste et taser, il y avait plein de trucs.
Oui.
Je dis, mais. Ah bon, je dis raison de plus pour que j'ouvre pas. Alors il me dit, bah, attendez, regardez. Et j'entends dire, je venais de changer de voiture, j'entends dire, non, on l'a pas celle-là. Et je sais qu'un jour, j'en pouvais plus et je me suis plantée, tu sais, dans l'espace, t'as un espace humain. Où tu te sens agressé quand tu t'approches très, très près des gens. Et là, je me suis plantée devant un, en lui disant, écoutez, pour la première fois de ma vie, j'ai honte du métier de mon père. Et c'est vrai que je ne pouvais plus les voir. Je ne pouvais plus les voir. J'ai dit, mais attendez, mon père, dans les années 68, il n'était pas mieux que les autres, il mettait des PV, il était comme les autres, il était maître chef dans la police. Mais à l'époque, c'était en janvier 68, il y avait les usines qui étaient déjà en grève. Et mon père dit, mais attendez, ce sont nos gamins qui sont en face. Et les flics, à l'époque, avaient dit, on va pas aller taper sur nos gamins, sur les gens. Et donc, ils avaient appelé les CRS à l'époque, parce que les flics avaient refusé de taper sur leurs gamins. Alors, je dis, mais attendez, vous pouvez penser, oui, mais on est des militaires, on doit obéir. Mais je dis, mais vous n'avez pas le droit de raisonner comme ça, enfin. Et puis le type se met à dire, mais écoutez, nous on est encore humains, mais vous voyez là les jeunes qui sont en bas, ils sont prêts à taper, on se sent pas, on n'est pas en cohérence avec eux.
Monsieur le 31 mars, quand ils sont venus faire la topographie, ben, vous étiez dans le bois là. Deux rangées de 10-15 peut-être. Ouais. J'étais tout seul. Je m'avais les trouvé, j'en dis, alors raconte tous contre un. Il y en a qui a laissé un sourire, mais les autres, on a dit, t'es en bas. Là, c'est ces journées-là que j'ai appris le plus. Parce que putain, tout pendant que j'étais dans ma parcelle, ils ne pouvaient rien me faire. Et c'est en discutant, moi, je ne suis même pas aperçu, ils ont réussi à me remettre sur le chemin. Sur le chemin communal, dès que j'étais sur le chemin communal, ils m'ont attrapé. Ouais. Et quand ils m'ont relâché, abeille courait les coyotes.
De l'eau, la vache.
Abeille courait. Je suis parti en tracteur à fond. J'ai pris l'entrée qu'ils ne connaissaient pas. J'ai arrivé sur le chemin avant une partie des flics. J'ai le masque qui était à l'avant, là, le bloc. C'était un flic de Percy avec sa kangou. Je m'arrêtais, mais c'était à 5 cm de son auto, hop, il est frappé. J'ai dit, toi, tu loupes ton démarrage en côte, t'as plus de feu. Tu fais ce que tu veux. J'arrive sur l'eau de la route, le grand coup me prend tout qui était là. J'étais le trouvé, t'es tout seul, j'ai mis le doigt sur le front. J'ai dit, toi, tu vas m'écouter. Tu vas voir, ça va être la guerre. Tu vas la gagner, mais tu vois, dans une guerre, il y a plusieurs batailles et tu verras jamais. Rappelle-toi de ça, je te dis. Hein.
Plus que RTE, je crois que c'est moi, c'est le préfet de Jean. Parce que vraiment, c'est lui qui c'est soi-disant là pour nous. RTE, il est pour son fric, hein, après tout, voilà. Mais le préfet, il devrait être là pour défendre ses citoyens. Tu voyais que c'était Prantou, le mec de RTE, qui donnait des ordres parce qu'au préfet et aux gendarmes, c'est pas normal, quoi. RTE ne pouvait pas réussir s'il n'y avait pas eu ce préfet-là.
Honnêtement, vu les, bah, comme on dit, les forces de police, etc., qui sont déployées pour absolument faire passer cette ligne, on se dit que bon, bah, c'est un passage en force, ils veulent qu'elle soit finie le plus vite possible, parce que je pense qu'ils savent très bien que plus ça traînera, plus ça sera dur.
Des choses qu'on oublie, des choses qu'on ne dit pas, qu'on enfouit. Mensonge aussi insignifiant qu'une flaque de sang noyée dans un lac de rage. Tout est parti de là, des cultures qu'on méprise autant que l'histoire qu'on occulte. Les témoins sont nombreux, le silence fait la loi. L'amnésie collective est reine dans un état de droit. Malheureusement tout est parti de là, malheureusement tout s'effacera. Autant de mots, autant de larmes, les consciences saines et sauves qui peut encore oublier. Et tu verras des mots plus hauts que d'autres et des blessures plus profondes. Et tous ces corps immobiles, entrelacés, telles les lettres du mot fin d'un roman sans intérêt aucun. Entre passé le bien-pensant, avaler sa putain de fierté. Garder sous la langue la pilule qu'on finira par gober tous. Délier les chaînes et menotter les mensonges. Qu'on nous apprenne à décalquer la vie des autres. Évitons d'être créatifs. À quoi ça sert au juste le respect? Pourquoi ça s'apprend pas dans les écoles? Ils ont broyé nos convictions à coups de perfusion d'idées noires. D'idées noires. Page blanche, j'ai l'envie de la noircir de quelques mots crasseux. À commencer par ceux que la censure sectionne à grands coups de ciseaux. J'ai fait les poubelles du ministère de la désinformation. Et c'est ça qu'on tienne tellement de subversions qu'il faudrait que je m'étale sur des centaines de sessions pour recoller tous ces morceaux. L'histoire est malléable et certains mettent la main à la pâte dans le seul but de nous mettre dans le pétrin et nous faire avaler tranquillement quelques pesantes couleurs. Plus c'est gros et plus ça passe, mais au bout des ficelles qu'ils tirent trop de pendus se balancent. Alors qu'on sait que les armées n'ont toujours eu comme seule motivation que l'approvisionnement de quelques comptes en banque. On nous sert des raisons sur un plateau assaisonné de propagande. Et en novlangue quand la défense avance, la paix progresse. Mais dans ma langue quand les blindés avancent, les peuples encaissent. La colère est un don qui nous incombe de sauver. Qui sont les malentendants? Quels sont les sous-entendus? Les non-dits en dévoiletant et les silences révélateurs. Le rêve dissonant d'un bonheur palpable mais lointain. Que faire d'une ébauche de confession? Le lyrisme des excuses ou les experts en communication. Qu'on se foute de notre gueule depuis le premier jour. Ou qu'on se mette le doigt dans l'œil jusqu'à en crever. Peut-on espérer mieux qu'un peu de froideur?
La mobilisation était est restée très effective quand même pendant tous ces mois-là. Et je pense que la tension, la présence policière renforçait ce besoin de lutter, d'être présent, d'être mobilisé. L'idée du camp, elle est venue assez tôt en fait. Hein. L'idée du camp, elle est venue dans une AG qui se passait à la mairie au mois de mars. Et c'était en fait peut-être au départ le rappel de... On a peut-être pensé que ça pouvait faire un deuxième camp de Balogne, quoi. Hein, une réussite en amenant une autre, on pensait pouvoir faire le même coup d'éclat.
Faire un camp pour nous, ça voulait dire inviter plein de gens à nous rejoindre quelques jours sur place pour parler de ce qui était en train de se passer, réfléchir ensemble à ce qu'on pouvait faire et proposer une grande action collective, au moment où RTE était clairement passé à l'offensive au Chefrenne. Du coup, on a lancé un grand appel public à venir nous rejoindre sur la commune de Montabeau. C'était du 22 au 24 juin 2012. Et cet appel, il a rayonné dans pas mal d'endroits, en France et au-delà. Et malgré l'intensité de la répression à ce moment-là, il y a plein de gens qui sont venus, qui ont réussi à rejoindre le pré où on avait installé toutes les infrastructures nécessaires. Et malgré les multiples barrages de la gendarmerie et les contrôles quasi systématiques. Il y avait plusieurs centaines de personnes, dont des gens venus d'assez loin, de plusieurs départements de France, d'Italie, de Russie, d'Allemagne. Les deux premiers jours, il y avait au programme plein de discussions sur Fukushima, sur l'histoire de la lutte anti-THT, sur le capitalisme vert par exemple, et surtout beaucoup de rencontres, des discussions informelles, couchées dans l'herbe. Et en parallèle, se préparait une action dont le but était d'atteindre un pylône en contrebas et d'enlever quelques boulons, comme ça avait pu être fait à plein de reprises dans les mois précédents.
On y allait un peu la fleur au fusil, quoi. C'est complètement possible d'imaginer à un moment où on imagine être 300 ou 400 et aller s'attaquer à un pylône en organisant une stratégie collective. Eh ben, on se disait que c'était possible. Je crois pas qu'il y ait un seul moment... Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas l'impression qu'avant, on soit dit, ce sera pas possible.
Personne n'imaginait qu'il puisse y avoir... une telle action répressive et avec clairement ce qui nous apparaît comme une intention de blesser des gens.
Enfin, ça a été une demi-heure, une heure de gazage intensif et de grenades de désencerclement.
La grosse douche froide, ça a été le nombre de blessés en très peu de temps, suivi aussi du fait que les véhicules de secours n'arrivaient pas et étaient bloqués par les gendarmes en aval du camp. Et qu'il y a eu, enfin, là, il y a beaucoup de gens qui ont déchanté à ce moment-là.
Il y a eu 25 blessés en une demi-heure et des blessés graves avec deux ou trois personnes qui se sont pris des éclats à côté des yeux et plein de gens qui ont eu des éclats de grenades dans les jambes, enfin, et dans tout le corps, quoi. Du coup, des gens qui, après ça, en fait, ont jamais pu oublier la force de cette répression-là, parce que juste, elle était marquée dans leur corps pour toujours, quoi. Parce que des mois plus tard, ils continuaient à ressentir les douleurs provoquées par ces trucs-là, quoi.
Ils n'allaient pas laisser passer les gens à les déboulonner. Fin. Ils ont des armes de guerre, ils sont entraînés pour les utiliser et pour blesser, quoi. Enfin, c'est leur... Ils sont payés pour ça, quoi.
En fait, on voit que leur stratégie, elle était avant tout de blesser et de choquer les gens et de faire de créer un coup d'arrêt.
Pendant juillet, août, même septembre, ça... Il y avait une espèce de ralentissement de toute cette intensité qui avait été vécue depuis février. Et pourtant, les travaux continuaient parce qu'il y avait encore des pylônes à construire au Chefrenne, notamment chez Yves Larsonneur ou chez Martine Osmond, et qui, eux, ont continué à résister à leur manière aux travaux.
L'exploitation, en général, les gens ils travaillent toujours dans le but de la transmettre à quelqu'un. C'est ça une ferme, parce que sinon ça n'a plus de sens. Quand on démarre sur une ferme, c'est toujours pour améliorer la structure, toujours améliorer pour avoir quelque chose de convenable. C'est toujours dans le but de transmettre. Mais même celui qui dit « moi je la vendrai », mais de toute façon il travaille toujours dans le but de gagner sa vie, mais aussi de constituer quelque chose qui a de la valeur pour la transmettre à quelqu'un, que ce soit à ses enfants ou pour la revendre. C'est ça un peu quand on a la fibre agricole. Et puis bon, bah, sur une ferme, nous, la première chose qui prime, c'est la structure de la ferme. Comme là, nous, toutes nos terres pour les vaches laitières, c'est groupé. Nous, on a 40 hectares qui sont ensemble. Et c'est un peu sur la longueur, et pour bien faire, voilà, ils nous ont pris sur toute la longueur. On ne nous a pas loupé. Quand il y a eu l'enquête publique, quand même, j'avais quand même expliqué notre cas, et j'avais quand même, à l'enquête publique, j'avais quand même demandé que le tracé soit différent, et je ne cherchais pas à la mettre chez le voisin. Je voulais que ça passe en bordure. Ça ne me faisait pas plaisir qu'elle passe, mais de toute façon, on sait très bien que... ça passerait.
Ouais. Ça aurait été plus supportable, c'est ça ?
Voilà. Ouais, voilà, ça aurait été plus supportable et je ne cherchais pas à la mettre chez le voisin. Je ne disais pas, je ne veux pas chez moi, mettez tout chez le voisin et tout. Non, simplement, mais voilà, eux, ils sont partis du principe qu'ils avaient... que c'était comme ça, puis que c'était pas autrement, et puis voilà. Tout est bouclé, c'est ça le problème, c'est que tout est bouclé, on peut discuter de rien, on peut pas...
Vous êtes tombé face à un mur, quoi.
Ah bah oui, oui nous, directement dès le départ, ils nous ont dit, c'est ça, ce sera pour autre chose, et puis, si vous ne laissez pas passer, on vous enverra les gendarmes, quoi, c'est tout.
Quand ils nous avaient barré les routes, là, que les gendarmes nous empêchaient d'aller dans nos champs, moi, je les ai appelés à la Chambre d'agriculture. J'ai dit, c'est ça que vous avez négocié pour nous et tout. Je suis tombée sur un employé. Et puis, après, il me rappelle, il me fait comme ça. Ah oui, mais on ne peut pas intervenir pour vous parce que vous n'avez pas signé avec nous. J'ai dit, attendez. J'ai dit, vous êtes nos salariés. J'ai dit, c'est nous qui vous payons avec nos impôts. Si à 2 heures, les routes ne sont pas libres, on est en train de charrier du lisier, on monte à Saint-Lô et on vit tout dans votre cour. Voilà, vous n'avez pas signé avec nous, mais ils se prennent pour qui?
Mais c'est incroyable. Qu'est-ce que vous auriez dû signer avec la Chambre d'agriculture?
Ben les conventions que RTE avait négociées avec la Chambre d'agriculture.
Elle est négociée avec la Chambre d'agriculture et avec les syndicats, donc voilà. Quoi. Ils ont déjà signé avec tous ceux qui sont censés nous défendre pour.
Ah oui, donc après l'agriculteur n'a plus de...
On n'a plus de recours.
Oui, voilà. C'est-à-dire que la chambre d'agriculture, comme c'est la chambre des petits copains, un peu quand même, donc comme nous, on n'avait pas signé avec eux, ils avaient à dire que ben voilà, que c'était normal qu'on soit enquiquiné.
Vous ne signez pas la convention, et RTE veut quand même passer avec ses lignes, ouais. Donc vous décidez de bloquer l'entrée...
Bon, on a décidé de ne pas se laisser faire. Ça traverse tout le siège d'exploitation, tous les champs, que nous, on est complètement bloqués. C'est l'instinct de survie, donc voilà. Pour nous, de toute façon, c'était ça, où on ferme les portes et puis ben, on s'en va sans rien dire. C'est tout. Mais on ne peut pas avoir travaillé toute sa vie et puis, pour construire quelque chose et puis dire, ben voilà, vous nous cassez tout, ben allez-y, continuez, cassez. Ben non. Quand on s'est douté qu'ils allaient arriver, on a dormi dans le champ le premier jour. Même Claude. Claude qui a le cœur malade et une jambe artificielle, il a dormi dans le champ pour être sûr d'être là le matin. La première journée, il n'y a que l'entreprise qui est arrivée.
Oui.
Bah déjà, on avait mis un taureau dans le champ, quelques jours avant. On avait mis un taureau parce que c'est un taureau qui n'était pas facile et moi, j'y allais pas dans le champ. Donc, on avait mis 2 vaches avec pour qu'il soit plus calme. Et donc déjà, le champ où le pilon était prévu était très bien gardé. Ils sont arrivés en débarquant. Le gars, il roulait les grosses mécaniques. Je commençais à lui dire, de toute façon, vous n'allez pas rentrer dans le champ, il y a un taureau et tout. Ouais, tu sais, Moi, je rentre dans le champ avec ma pelle, j'y éclate la gueule à ton taureau, le gars. Voilà, comme ça, il s'adressait à moi.
C'est même pas que sur le chantier de la ligne qu'ils sont comme ça, c'est partout dans leur quotidien. Quoi. Ils nous disaient, quand on arrêtait pas les gendarmes, on leur dit, oui, on travaille pour RTE. Et voilà, quoi. Ils ont vraiment une mentalité...
Ils étaient dans une certaine impunité.
Ouais, fait, complètement, complètement.
Ouais. Bah après, nous, moi, j'étais dans le godet du tracteur parce que, déjà pour y voir plus loin. Et puis voilà, je me sentais en sécurité là-haut. Je trayais, mais comme de la stabu, je vois là-bas. J'allais faire même le temps de traire, j'allais voir s'il n'y avait rien de spécial. Et puis après traire, de toute façon, je retournais au champ. Voilà.
On n'a pas eu les gendarmes le premier jour, mais le lendemain, c'est le lendemain. Ils ont été chez Yves Larsonneur, et là, il y avait les gendarmes, et donc chez Yves, ils sont rentrés.
Voilà.
Mais bon, forcément, ça s'est su, tous les journalistes sont venus, et donc nous, on a été protégés par ça, quoi. Les journalistes étaient là, et ça s'était mal passé chez Yves, donc ils ne voulaient pas recommencer avec les gendarmes. Et donc c'est comme ça qu'on a réussi à tenir, quoi. Tant qu'on était là-bas... Il voulait pas, que ça fasse un fiasco de plus.
Quoi. J'ai quand même eu un gros avantage, c'est d'être une femme.
Ouais, aussi. Ouais.
Parce que s'ils avaient fait comme chez Yves, s'ils étaient venus me chercher là-haut, du haut de mes 45 kilos, ça allait peut-être pas faire très bon effet. Je crois quand même que j'ai eu un avantage de ce côté-là, je pense.
Oui, t'as montré une détermination aussi.
Ah, bah oui! De toute façon, je leur avais dit, on se battra jusqu'à la mort. Mais on est coriace, c'est tout. Faut être dur quand même.
Ah, j'avais mis le tracteur, mais vous enlevez quand le tracteur? Oh, ben j'ai une balle à matinée parce que j'en ai besoin. Donc j'ai bien enlevé le tracteur, mais j'avais pas dit, j'ai mis la pelle. Les flics, ils me disent ça. Et puis j'ai dit, monsieur, à force de vous côtoyer, mais j'arrive à parler comme vous. Parce que j'ai bien enlevé le tracteur, je vous l'ai dit, mais je vous ai pas tout dit.
Chez Yves et Sylvie, RTE avait prévu de construire deux pylônes dans leur champ. Mais dès le début, ils ont refusé de signer quoi que ce soit. Ils n'ont jamais signé aucun document avec RTE. Ce qui fait qu'en théorie, ils n'auraient jamais pu avoir l'autorisation de faire ces travaux. Mais à ce moment-là, RTE est un peu pressé par le temps parce qu'il doit terminer ce tronçon avant septembre. Ce qui fait qu'ils ont décidé de passer en force. Et avec la complicité de la préfecture, ils ont débarqué chez eux. Enfin, ils ont débarqué dans le champ qui était concerné par la construction des pylônes. Et de manière totalement illégale, on commençait les travaux.
Débarquement. Ben c'est le début des travaux que j'ai jamais vu, moi. Puisque j'avais garde à vue dès 8h30 le matin. En travaux, mais j'avais jamais eu de travaux. Donc, garde à vue, me note toute la journée. Jusqu'à 6h30 le soir. C'est le connard de Pranto qui a dit ça, qu'on était armé dans le rue. C'est pour ça que le préfet l'a envoyé l'artillerie, apparemment. Enfin, pour nous, si tu veux. Alors, c'est quand même nous qui vivons dessous. C'est quand même eux qui viennent nous saccager ce qu'on a.
Le respect des gens.
Ouais, c'est ça.
Notre bien perd beaucoup de valeur. Et ça, ils ne prennent pas en compte, alors qu'ils prennent un tas de choses, des conneries en compte.
Pour le coup, quelque chose qui a un petit peu relancé la machine, c'est le fait que Yves Lerssonneur ait gagné devant les tribunaux en septembre, et qui a remotivé un petit peu la lutte sur Saint-Martin-d'Aubigny, donc du coup presque au nord de la ligne, chez Madame Pin, et sur des terres utilisées par son fils, où là pour le coup il y a eu à nouveau des blocages en septembre et en octobre, qui ont été que temporaires, puisque par la suite le pylône a commencé à être construit à la fin de l'année.
Novembre 2012, le bois au Chefrenne n'a toujours pas été expulsé, en tout cas de l'occupation, pour faire passer les pylônes. Les travaux n'ont pas encore eu lieu à ce moment-là, et on est toujours dans l'attente de quand est-ce qu'ils vont virer les gens du bois pour couper les arbres. Et du coup, il y avait cette menace-là d'une intervention des forces de l'ordre qui inquiétait le propriétaire des lieux quant à des potentiels blessés lors de cette intervention-là.
Suite au camp de Montabeau, on craignait clairement que ce qui s'est passé au camp de Montabeau puisse aussi se passer au bois de la Vévinière. Et de fait, ne voulant pas nous arrêter là, on avait envie de continuer à trouver un endroit où on pouvait se réunir, s'organiser, créer des événements. Et on a eu la chance à ce moment-là de pouvoir d'avoir l'opportunité d'investir une grange sur la commune de Montabeau, qui continue toujours ses activités.
Les assemblées générales, elles ne se sont pas arrêtées après le camp de Montabeau. Elles ont continué, et à partir de septembre, ça a repris. Et la grange, c'était aussi un endroit où on pouvait encore tenir ses assemblées sur cette période qui était la fin des travaux. Et même au-delà de la fin du chantier de la THT Cotentin-Maine, on a continué à se réunir dans cet endroit-là.
On faisait les rondes de nuit.
Rondes de nuit.
Ben oui, à un moment donné.
Pour surveiller tes vaches.
Oui, bien sûr. Bah, c'est ce que j'explique. Je faisais tout le tour en tabou quand on avait peur qu'ils interviennent
dans le bois.
Mm-hmm. C'est que moi je me levais à 5 heures et puis j'allais faire tout le tour voir. Mais eux ils faisaient ça aussi. Alors forcément des fois on croyait, et là on fait
la ah, c'est cool.
Ça arrivait.
C'est vrai que les nuits étaient très mouvementées.
Il y avait un expert judiciaire qui devait dire combien d'arbres on devait abattre et autres, et on a vu RTE débarquer comme ça. Ben nous, ça y est, on a le résultat de l'expertise. Je me souviens, il neigeait. Et...
L'expertise n'était pas faite encore.
Ils ont brandi un document comme ça sous les yeux, mais qu'on ne pouvait pas lire. Et moi, je me souviens que j'ai attrapé mon vêtement et j'ai couru dans le bois tout de suite.
Il y avait de la neige partout, on ne pouvait pas circuler. Et,
les militants ne pouvaient pas venir de partout.
En discutant avec les bûcherons, ils ont été prévenus à 11h le soir. Hein. Ça a vraiment fait pour qu'il n'y ait pas personne dans le bois. Hein.
Oui, ils ont fait quand même déplacer 30 flics pour 5 personnes. Quoi.
J'ai couru dans le bois et je me suis installée sous un arbre, qui était déjà l'arbre où il y avait la cabane.
Oui.
Il y avait une cabane, ils avaient déjà donc commencé à abattre.
Donc, t'étais toute seule là-bas?
J'étais toute seule, il y a eu Géraldine, qui elle est arrivée, on était vraiment Géraldine, son mari, et puis un des garçons, je crois. Ça, c'était violent, c'était rapide, fallait faire très vite. Et moi, la seule chose que j'ai trouvé à faire, c'est de m'installer sous l'arbre. Les bûcherons disaient de « on arrête tout », puisque j'étais assise sous l'arbre. Et le type de RTE disait « continuez ». et continuer. Et il y a eu un combat entre les bûcherons et moi, j'étais assise sous l'arbre avec mon vêtement rouge et pour qu'on me voit bien. Et voilà, et j'étais révoltée, quoi. Je me suis fait attraper par les forces de l'ordre puisque je ne voulais pas bouger. Donc les forces de l'ordre sont arrivées et donc les bûcherons ne voulaient surtout pas bouger. Et RTE s'en est donc mêlé. On a vu les forces de l'ordre arriver, on m'a attrapé, je me suis retrouvée les vêtements enlevés, le soutien-gorge apparent. Bon, c'est pour l'anecdote. Et par contre, là, je me suis fâchée.
Non, mais il n'y a pas de dignité, quoi.
Il n'y a aucune dignité. Ouais, non, c'était violent. Mais on était 4-5. Hein. On était isolés. J'étais escortée en dehors du bois. Jean-Claude filmait. On m'a mis en dehors du bois. Et puis, on assistait à la chute. Comme un effet domino, et alors, ce qui m'a écœuré sur les cabanes.
Ils ne nous ont pas laissé le temps de vider la cabane.
Ouais, parce qu'ils disaient que ça n'allait pas tomber sur
non,
la cabane.
Le gars, le bûcheron, il voulait tout, il voulait mettre des cordes et tout pour pas que ça tombe sur la cabane. Après, une fois qu'on est parti, rien à foutre.
Ils ont tout écrasé.
Ah ouais, ouais. Ah ouais. On partait, escorté par les gendarmes, on partait, on entendait. C'était voilà. Dur.
Et puis sont arrivés ben, les gens, la dame qui était dans le godet, Martine Leroy, qui est arrivée dans le godet, et puis les larçonneurs sont arrivés. Mais bon, ça s'est fait vraiment, vraiment très vite. Le seul moment où il y a eu un statu quo, c'est quand j'étais sous l'arbre, j'empêchais la coupe, puisque je trouvais que c'était malhonnête quoi, de la part d'eux. J'étais très très sonnée par tout ça. C'est un peu anesthésié dans ma tête. J'ai du mal à repasser dans le bois. C'est quelque chose. C'est traumatisant.
C'est traumatisant.
The summer was over, the season unkind. In harvest a snow how uncommon to find. The times were oppressive and well be it known that hunger will strongest offences break down. 'Twas then from their cells the black gentry stepped out, with bludgeons determined to stir up a rout. The prince of the party who revelled from home was a terrible fellow and called Irish Tom.
Ils sont venus en force chez l'arçonneur, oui. Il avait gagné son procès, et puis le préfet avait pris une disposition. Pour que RTE arrive en force. Donc on s'est tous retrouvés chez l'arçonneur.
Quand ils ont voulu venir remettre les fils, parce qu'ils étaient toujours pas mis, donc on s'est mis en travers. J'ai dit, monsieur, je vous laisse rentrer, mais faites-vous avoir que ma décision de justice était cassée. Et puis c'est tout. Nous avons pris une ordonnance, l'ordonnance que le juge avait demandé de prendre. J'ai dit, l'ordonnance, elle est valable chez les gens qui n'ont pas signé, mais qui n'ont pas de décision de justice. Mais ici, vous avez une décision de justice que vous ne devez pas être là. Si l'ordonnance ne vous suffit pas. Non, mais on s'en fout de la justice. Mmh. Voilà la réponse. Mmh. Donc les flics nous ont traînés. Ah, ils nous ont chiés.
Quand on a rebroussé chemin, on est quand même resté à l'entrée du chemin d'accès, du premier chemin d'accès pour soutenir Yves et Sylvie, qui eux se sont opposés physiquement. Puis ils sont quand même couchés devant une machine. Et donc là, ça a été en fait le moment où le dernier moment d'opposition, en tout cas sur le Chefren, le dernier moment d'opposition aux travaux, puisque là en fait ils reprenaient les travaux pour câbler. Les pylônes étaient déjà montés.
un de ces deux pylônes qui a perdu un de ses isolateurs. On n'a jamais su si c'était la tempête. D'après RTE et ce qu'ils en ont fait passer dans la presse, il se serait agi d'un sabotage. Toujours est-il qu'un câble se trouvait suspendu à 1,52 m de hauteur avec l'isolateur qui pendait quasiment jusqu'au sol. Et de fait, la ligne n'a pas pu être mise en service à ce moment-là et qu'il a fallu attendre qu'ils reviennent pour réparer ce câble et mettre la ligne en route. Oui, je pense que de mémoire, c'était courant mai. Et ce, alors que le poste de transformation et qui relie donc cette ligne à la ligne existante entre Rennes et Le Mans. Donc ce poste-là n'était pas terminé et ne devait pas être terminé encore avant la fin de cette année-là, quoi. Donc il y avait un raccordement qui s'est fait un petit peu, sans transformation en fait, directement de THT à THT, ce qu'on disait en rigolant, raccordé avec des pinces crocodiles. Et de fait, il y avait l'impression que de la part de RTE, il fallait absolument envoyer le message comme quoi la ligne était en route, même si tout n'était pas vraiment prêt, de manière à aussi un petit peu se dire, les gens iront peut-être un peu moins s'occuper de la ligne s'il y a du courant dedans.
Et du coup, depuis, on a complètement oublié l'histoire de l'EPR, qui est toujours pas en route, mais qui était censé justifier la construction de cette ligne-là.
On va même arriver à oublier l'EPR.
Vous venez d'écouter le deuxième épisode de la série radiophonique « Ça grésille dans le poteau » sur la lutte contre la THT Cotentin mène. Prochain épisode, épisode 3. Peu importe les moyens de s'opposer, pourvu que les fils soient tous coupés. Retour sur les stratégies de lutte. Plus d'infos sur internet, antitht.noblogs.org.